Radio Okapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
De l'aéroport d'Ndolo, il nous revient qu'un hélicoptère de l'armée congolaise a connu un crash lors d'un essai technique. Après réparation de l'appareil, bilan 3 morts, détails sous peu en ouverture de ce journal. À suivre également, quelques détails sur la mission du chef de l'État Félix Tshisekedi à Entebbe. En Ouganda, il y est prévu un échange en tête-à-tête avec son homologue ougandais sur les tentatives de sécurisation de la partie est de la RDC. Pierre Célestin Kabala Mwanambui, célèbre journaliste sportif congolais invité de ce journal. Il commente avec Kanish Mukongo Fwanikizi les moments forts du combat de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman. C'est à l'occasion du 50e anniversaire. Sous peu, nous scrutons tous ensemble les grands faits d'actualité du pays. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Un hélicoptère de l'armée congolaise a connu un crash cet avant-midi à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa du côté réservé aux militaires. D'après des témoignages, cet accident survient après une réparation de l'appareil qui effectuait des essais techniques. Une source aéroportuaire parle de 3 morts. Tous membres d'équipage et l'appareil est complètement calciné. Les services des communications et informations des FRDC annoncent de plus amples détails très prochainement. Et puis, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni se sont entretenus en tête-à-tête mercredi au palais présidentiel d'Entebbe en Ouganda, selon la présidence de la République du Congo. Ce tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs des armées congolaises FRDC et ougandaises du PDF sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans l'est du pays, a indiqué la présidence congolaise. Le ministre des infrastructures, le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda, le chef d'état-major général des FRDC et d'autres membres du cabinet du chef de l'État accompagnent le président Tshisekedi à cette mission de travail, selon la source. Autre actualité pour le moment, nous sommes maintenant dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, en territoire de Nyiragongo. Les routes barricadées et activités socio-économiques paralysées sur plusieurs axes ce mercredi dans le groupement Mouja. La population de la zone s'insurge contre les multiples cas de meurtres et cambriolages par des bandits armés dans la zone. Ces manifestants exigent la restauration de la sécurité. Bernard Nyangi.
La nuit de mardi à ce mercredi, une femme a été blessée par balle au ventre lors d'un cambriolage des bandits armés. C'était autour de 0h30 dans le village de Kiziba 1, en territoire de Nyiragongo. Ce village est périphérique au quartier Ndosho de la ville de Goma. Avant cet incident, ce sont au moins 10 maisons d'habitation qui ont été cambriolées et un cadre de la société civile de Nyiragongo blessé grièvement par des bandits armés la nuit de lundi à hier mardi. Là, c'est dans le village Bougambadé, toujours près de Ndosho, au sud du groupement Mouja. Ce qui porte, selon la société civile locale, à un bilan de 18 cas de meurtre, une dizaine de blessés et 33 cambriolages enregistrés au courant de ce seul mois d'octobre dans le territoire de Nyiragongo. Fâchée par ces incidents, la population locale a barricadé plusieurs routes principales et de dessertes agricoles moyennant des pierres et troncs d'arbres toute la matinée. Ce mercredi, depuis Bougamba Kiziba jusqu'à Turunga, elle veut entre autres qu'une solution urgente soit trouvée contre la circulation d'hommes armés, dont des militaires incontrôlés, dans la zone. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nous allons rester dans le Nord Kivu. Les langues se délient autour de l'appartenance de l'enclave de Nzulo en groupement Camorons et chefferie des Bahoundé en territoire de Masisi. Un flou plane toujours sur ce que l'ICCN, sur qui de l'ICCN ou de la population riveraine appartiendrait cette entité située au nord-ouest de la ville de Goma. Le point avec Gabriel Ouamegna.
C'est bien connu par les deux parties au conflit. Il s'agit de l'ICCN et de la population autochtone de Nzulo. D'une part, c'est la population qui se réclame entièrement propriétaire à jamais de cette portion de terre. Et de l'autre côté, c'est l'ICCN qui agit de concert avec le gouvernement, faisant prévaloir les droits de propriété de Nzulo. Selon Maître Justin Kakese, le dossier Nzulo est clos par la décision rendue par le tribunal de grande instance de Goma en 2022. On l'écoute. Sainte.
Et parce que le dossier d'Enzulu est clos, en Zulu, il n'y a pas de conflit. Le jugement est venu confirmer et la colonie belge l'avait confirmé.
De son côté, l'ICCN, à travers son directeur des relations publiques, affirme haut et fort qu'il n'y a seulement 4 collines dans cette enclave qui appartiennent à la population d'Enzulu. Méthode Mouzi.
Dans la zone d'Enzulu, les seuls endroits ne faisant pas partie intégrante du parc national de Virunga sont constitués de 4 collines. C'est notamment la colline d'Enzulu, la colline de Kabazana, la colline de Kitwalo et la colline de Mionga.
Suite à l'expansion de la spoliation de cette partie intégrante du PNVI, l'ICCN a lancé une campagne dénommée Nzulu n'est pas à vendre. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Plus au nord du pays, dans la province de la Tchopo, la société civile Force Vive dénonce l'insécurité criante aussi bien dans la ville de Kisangani qu'à l'intérieur de cette juridiction. Dans un point de presse animé hier par Elias Alima, président de cette structure citoyenne, regrette que le mémo préparé à cet effet pour soumettre au chef de l'État ne lui a pas été remis en raison du blocage connu en dernière minute. Il espère que le gouverneur de province prendra en charge cette question en vue d'y trouver des solutions idoines dans l'urgence. Les propos du président provincial de la SOCIPO sont relayés ici par le secrétaire rapporteur. Vincent Matumba est au micro de Jacques Mukonkole.
La population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de Sendini, l'insécurité est grande. Illustrons seulement l'exemple de la ville de Kisangani. Avec les déplacés de Lubunga qui ont envahi toute la zone de santé de Makiso, la partie est ici. Les enfants défilent, ils quémandent. C'est une bombe à retardement pour la République. Plus tard, nous espérons que nous allons encore plus décrier qu'il y a la délinquance juvénile parce qu'on ne sait pas encadrer ces enfants. Et les enfants et les mamans, ils sont déplacés de leur milieu naturel et ça devient un grand problème. Prenons l'exemple qui se vit au campus aujourd'hui. Vous voyez, les étudiants manifestent leur mécontentement en affront avec les motards. C'est toujours l'insécurité. Nous allons à Opiengé. On ne sait pas trouver de solution à leur problème. Donc, le problème de l'insécurité est majeur et notre cahier des charges que nous avons préparé pour remettre au chef de l'État est plus détaillant et plus détaillant. Et c'est comme ça qu'on va devoir s'indigner pour n'avoir pas été reçu et franchement, ce n'est à culpa. J'espère que le gouvernement provincial pourrait s'y mettre et chercher à incarner la volonté du chef de l'État et trouver solution à tous ces dérapages, hein, tant au centre-ville qu'au niveau de l'intérieur de la ville.
Nous parlons à présent de la situation de plusieurs Congolais qui ont été refoulés de l'Angola, qui ne fait que se dégrader du jour au lendemain à Chakoufa, dans la province du Kwango. L'association Action Plus, une structure de la société civile qui le dit, indique que ces refoulés sont dépourvus de tout et passent nuit dans des conditions inhumaines. Son coordonnateur Jude Changata fait savoir aussi que le gouvernement provincial du Kwango avait volé au secours de ces personnes il y a quelques jours, mais il pense que cela est insuffisant. Il plaide auprès du gouvernement congolais et des organisations humanitaires pour une assistance en faveur de ces refoulés. Irène Bomaluzolo nous fait le point.
Parmi ces refoulés de l'Angola qui se trouvent actuellement dans la province du Kwango, précisément dans la localité de Chakoufwa, au territoire de Kayemba, frontière congolaise avec l'Angola, figurent les femmes et les enfants. Ici, ces Congolais vivent dans des conditions déplorables, comme le témoignent les coordonnateurs de l'association Action Plus, une structure de la société civile de Kayemba, Jude Changata.
Les enfants et les femmes sont les premiers vulnérables. Les manger pose problème et aussi problème de logement. Ils sont restés dans des écoles et aussi églises. Comprenez avec cette période pluvieuse ce que ça peut causer comme problème.
Jude Changata appelle à une intervention urgente en faveur de ces personnes en détresse.
Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial qui a apporté une assistance financière bien que non consistante, mais le gouvernement central et les organisations gouvernementales nationales peuvent apporter leur soutien aux Congolais qui sont en train de souffrir jusque-là à Chakoufa. Surtout le manger, le logement et les déplacements.
Les responsables des Action Plus dénoncent les mauvais traitements infligés aux Congolais par l'Angola qui, selon lui, est un pays ami de la RDC. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Santé dans ce journal, plus de 102 000 personnes ont trouvé la mort des suites de la variole de singe depuis janvier dernier sur environ 38 185 cas suspects, dont 8 607 confirmés à travers le pays. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a livré ces chiffres lors de la réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique de Mpox à Kinshasa. À cette occasion, il a alerté sur le respect des mesures de prévention de cette épidémie. Plus de détails avec Blaise Nongala Mayanda.
À l'issue de cette réunion, le ministre de la Santé publique s'est entretenu avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les parties prenantes en vue de soutenir la riposte contre les Mpox, affirmant à cette occasion que 47 547 personnes ont été vaccinées, soit 53% de la cible. Il a précisé que cette campagne de vaccination a eu lieu dans 3 des 6 provinces ciblées que sont l'Équateur, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru et la Tchopo. Le ministre Kamba a cependant noté que le pays a connu une réduction significative du taux de létalité de cette maladie qui est passé de 1,20% à la semaine 41 à 0,0014% au cours de cette semaine. Par la même occasion, il a instruit les équipes de surveillance à renforcer les mesures barrières dans le but de prévenir toute introduction de l'épidémie des maladies à virus Marburg qui sévit au Rwanda. Dans un entretien accordé la semaine passée à Radio Kapi, les représentants de l'Organisation mondiale de la santé en RDC avaient affirmé que la campagne de vaccination contre les Mpox était un succès dans les provinces où elle s'est déroulée.
Et dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, le centre de santé de Samboko, situé à 60 km de la ville, éprouve des difficultés de fonctionnement depuis l'incendie par les rebelles ADF en 2018 d'un de ses bâtiments qui servait de polyclinique. Actuellement, cette structure sanitaire utilise un bâtiment où se déroulent toutes les activités nécessaires pour un village d'environ 25 000 habitants, ce qui ne leur permet pas de respecter les normes sanitaires. Salomon Maté, l'infirmier titulaire de cette structure sanitaire, plaide pour une aide à la construction d'un nouveau bâtiment afin d'assurer une bonne prise en charge des malades. Il le dit au micro de Guylaine Kassassia.
Au travail dans ce même bâtiment, il y avait 12 pièces. C'était bâtiment polyclinique. Pour le moment, on mélange les accouchés avec les malades dans un bâtiment de 8 pièces. C'est là que fonctionne tout pour le moment. Les normes ne sont pas là parce qu'il y a risque même de contamination si toucher les bébés, les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infections chez les mamans ces derniers temps. Pour nous, il faut que nous trouvons un partenaire qui va nous construire un bâtiment à polyclinique. Pour le moment, le fonctionnement est difficile parce que la population est très pauvre. La plupart de la population sont des populations retournées, estimées à 24 800, mais qui payent difficilement les produits à cause de la sécurité. Et pour le moment, on achète peu de produits et il y a beaucoup de dettes chez la population. Les personnels soignants travaillent comme bénévoles actuellement.
En plus bref, l'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption LICOCO annoncent une campagne de lutte contre la corruption et l'impunité en RDC. Ces deux structures publient ainsi un certain nombre de projets qui avaient été financés par les fonds publics en RDC, mais ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis.
Actualité internationale.
L'exemption des visas d'entrée pour les Ukrainiens détenteurs de passeports diplomatiques pompe des discordes entre les alliés au pouvoir en Afrique du Sud. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement des coalitions membres de l'Alliance démocratique a annoncé dimanche l'accord irrelatif, ce qui suscite l'opposition du Congrès national africain. L'ANC dénonce une décision unilatérale. Le président Cyril Ramaphosa n'ayant pas été consulté. Cette affaire met en lumière la difficulté de l'exécutif sud-africain à prendre position face à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, jour de vote au Botswana, ce mercredi, les électeurs se sont rendus massivement aux urnes dès les premières heures. Depuis 5 heures du matin, les citoyens du Botswana font la queue devant les bureaux de vote des différentes circonscriptions du pays et principalement dans la capitale Gaborone. Il était 6h30 lorsque les premiers bureaux de vote ont ouvert et on note une affluence particulière et majeure depuis ce matin, notamment la présence des personnes âgées et d'adultes alors que les jeunes se font encore attendre.
L'invité.
Cela a été dit dans le sommaire de ce journal. Le Monde célèbre ce mercredi 30 octobre 2024 le 50e anniversaire du combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Notre invité de ce jour, c'est le journaliste sportif Pierre-Célestin Kabala-Mwanambouy qui revient sur les moments forts de l'organisation de ce combat du siècle des poids lourds qui avait eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa au Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. Il s'entretient ici avec Kanishi Mukongo Fwanikizi.
Pierre-Célestin Kabala-Mwanambouy, bonjour.
Bonjour Kanis Mukongo Shambouy.
Vous êtes journaliste et vous étiez dans les comités mis en place pour les préparatifs de ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Que retenir de l'organisation et du spectacle?
De l'organisation, c'était inimaginable. D'abord, c'était uniquement les enfants du pays, ce qui avait fait la fierté non seulement du président Mobutu, mais aussi du président américain, je crois que c'était Edgar Faure, qui avait adressé un message pathétique au président Mobutu pour lui dire qu'il était surpris agréablement par la qualité de l'organisation, la qualité des images qu'il avait reçues en direct aux États-Unis et la qualité du combat. Du combat lui-même, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'était unique en son genre. C'est la première fois qu'un pays africain, avant l'Europe, avait organisé un événement de cette envergure.
Pierre Célestin, dites-nous, pourquoi le président Mobutu avait accepté l'organisation de ces combats?
Le président Mobutu n'avait pas accepté parce que personne ne lui avait imposé, c'est lui-même. Nous étions au Caire, en Égypte, à la Coupe d'Afrique des Nations de football que les Léopards avaient remportée. Et le président Mobutu, après son discours aux Nations Unies, décembre 73, s'était attiré le courroux du monde occidental. Et c'est nous les journalistes qui avions découvert qu'Ali était au Caire. Nous étions Lucien Chimpumpo, Sassa Kassai Kibouba et votre serviteur. Et nous l'avions porté à la connaissance de notre chancellerie au Caire. Que sur un coup de tête, il avait décidé, ah ça c'est quelque chose de bien pour moi. Il est allé à la rencontre de Mohamed Ali. Le président Mobutu l'en a dissuadé, il a dit qu'il était lui le combattant de la dignité de l'homme noir et que le président Mobutu était pour le recours à l'authenticité. Donc c'était deux destins qui se croisaient. En 7 mois, nous devions réaliser tout ce que le monde a vécu. Nous avions constitué des commissions sous la présidence du cabinet du président de la République avec la réfection du stade. On a commandé des rings de boxe, des rings d'entraînement et le pays avait dû porter sa capacité de communication de 4 à 6 lignes. Et en plus, nous avions renforcé la capacité de l'industrie hôtelière de 1000 à 10 000 lits. Il y a eu 10 000 points lumineux à travers Kinshasa. Et le transport était également renforcé parce que le Zaïre avait commandé de l'Allemagne tous les bus luxueux qui devaient transporter les invités. La télévision avait également eu des équipements pimpants neufs et je vous dis qu'il n'y avait aucune assistance étrangère. Tout était fait par les enfants du Zaïre.
Et c'était quoi les coûts sur le plan financier?
Mais il faut aller dans les 10 millions de dollars. D'abord, la bourse était telle que qu'on l'avait donnée à Ali et Foreman avec 5 millions. L'organisation n'est pas rentrée dans les frais.
Quel est l'impact de ces combats Ali Foreman au niveau national et mondial?
L'impact est énorme. Pourquoi pense-t-on 50 ans après, alors que nous-mêmes, nous n'en étions pas conscients? Et c'était l'un des événements du siècle consacré par le monde entier. Et parce que ces combats avaient fait connaître le Zaïre en ces temps-là, à travers le monde, étant donné qu'après la rebaptisation du pays, très peu de gens savaient situer le nom Zaïre sur la carte du monde. Et en plus de cela, sur le plan culturel, la couture appelée dans le passé à bas cost et le boubou étaient importés aux États-Unis et même les mets africains de Kinshasa étaient consommés aux États-Unis. Sur le plan sportif, il y a eu de boxeurs qui se sont inspirés de ces combats pour faire des exploits inédits à travers le monde. On n'a qu'à se souvenir de champion du monde appelé Sumbu Kalambay Ali.
Comment la République démocratique du Congo peut-elle capitaliser les acquis de ce combat du siècle Ali Foreman?
Ce qu'il faut faire, c'est d'abord regretter ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de sens de devoir. Nous n'avons pas de sens de mémoire. Il faut participer à la mémorisation de tout ce qui fait entrer le Congo dans l'histoire du monde. et qui doit partir de génération en génération, immortalisé. Mais qu'a-t-on fait de ces combats jusqu'à présent? Ce sont des faits qui constituent la consolidation de l'histoire du monde, la mémoire, les mémoriaux de notre pays. Et il faut y penser. Je pense également à l'antre qui avait servi à ce stade. Qu'est-ce qu'on en a fait par rapport à ces combats? Aujourd'hui, il faut penser à en faire un lieu touristique de niveau mondial.
Pierre Célestin Kabala Mwanambui, je vous dis merci.
C'est moi et merci à Radio Okapi.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, Polydor Basunga qui a assuré la prise des sons, Billy Ivan Lutumba et toute l'équipe qui a concouru à la préparation de cette édition du journal, nous vous disons merci.